89.1 MHz.
Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Eh ben, ma foi, nous voici déjà en été et c'est les débuts des programmes sur Radio FMR. Comme d'habitude, vous nous écoutez en direct sur les 89,1 MHz jusqu'à 5h du matin. Et le programme d'aujourd'hui, de juillet, et oui c'est l'été, ben, on commence par un supplément week-end spécial plage, puis le coyer du sport spécial petite reine, et à partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, c'est du reggae, ben, forcément cycliste, pardon, excusez-moi, 17h, vie d'ordure, c'est du punk, 18h30, Clark Nova, le retour des communistes, trotskistes, électro, symbolique, 20h, Last Eto Experience, 21h30, Liquid Sky, 23h, Breakbeat Experience.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et ça m'apprendra à faire du style. Bonjour chers amis auditeurs. Hey, John B, we like the music, Latino mix, ça c'était l'intro qu'on utilisait jusque là. Et on continue, je veux dire, dans le côté calme, tranquille, je crois que c'est...
Ouais.
Pareo, crème de bronzage,
tongue, short à fleurs,
coquillage et crustacés, supplément week-end, spécial plage avant de partir, longue interruption, donc voilà, on y va soft. Hein.
On finit en douceur.
Oui, roudoudou. Non, moi je ne suis pas en bikini et Thomas c'est pire, lui il a choisi la guerre au bronzage intégral.
Oui, mais de toute façon, je sais que c'est pas télégénique, on fait pas de télé, Xavier, on peut faire ce qu'on veut ici.
Ah, je le disais aussi.
C'est pour ça.
vous dire, on y va tellement à la cool aujourd'hui. On n'a même pas notre grille des plannings est même pas faite.
Ouais, comme parce ça. Que ça nous sert d'habitude de toute façon.
Si, en général, c'est indicatif et c'est vrai que on s'y tient.
Non, mais c'est bien, ça nous empêche de déborder, ça c'est bien.
Oui, enfin, le problème, c'est que du sport, lui, il prend une demi-heure après, et boum, allez, hop. Bon, il s'en fiche, c'est lui qui déborde, hein, sur lui-même, donc. Donc voilà, donc, à vrai dire, on va faire une interruption pendant 15 jours. On s'est un peu intéressé à savoir qu'est-ce que pourrait vous intéresser là pour cet été tranquillement et à vrai dire ben on a cherché des trucs en rapport avec la plage. Moi j'ai trouvé de la lecture de plage. Excusez-moi, je vais reparler dans le micro, ce sera mieux quand j'aurai fini de caler
de la lecture de plage.
Ouais, qu'est-ce que c'est de la BD qu'on peut lire à la plage?
Oui, il y aura de la BD, il y aura aussi des gros pavés hein, quand même. Je vous ai pas vraiment calé, mais c'est en rapport avec des films qui vont sortir. Thomas, toi, je crois que t'as prévu quelque chose en fait qui est en rapport avec la plage, point de vue cinéma.
Oui, un petit DVD d'un mec qui a l'habitude de beaucoup filmer la plage dans ses films.
Ah, d'accord. Tu veux dire ce navet là avec le beau gosse là
Brice Denis
Non, avec DiCaprio.
Ah, la plage. Non, c'est pas ça. Non.
C'est pas ça. Brice Denis, la plage, bonsoir. Beau gosse, moi tu parles. Si vous restez sur Toulouse, puisqu'il y a ceux qui vont nous écouter désormais sur internet, mais il y a aussi ceux qui nous reçoivent en réception directe sur les 89.1 de Radio FMR, sachez qu'en ce moment,
la personne vous avez... qui a donné des idées.
Oui, puisque Toulouse, nos maires de Toulouse ont trouvé très spirituel de faire un Toulouse plage absolument catastrophique. La première année était relativement kitschissime, la deuxième année était au fin fond de l'île du Ramier, la troisième aussi, mais cette fois-ci sans l'aspect foire commerciale entre guillemets. Enfin, à mon avis, on va en royal se faire chier. Heureusement, il reste les siestes musicales. Alors, le principe des siestes musicales, si on vous met de la musique, du mix électro, un peu allumé, etc. Et dessus, vous pouvez dormir.
Ah, c'est intéressant comme concept.
Pourquoi ? Toi, tu éteins... Tu mets pas de musique, toi, quand tu t'endors ?
Non.
Ah, bon, d'accord, ok, loupé mon effet. Donc, en parallèle avec ces siestes musicales que je salue amicalement puisque ce sont des mecs qui oscillent autour de Radio FMR qui les produisent puisque il y a je crois qu'il dans la programmation il y a Doc Livingstone, GDZ, etc. Donc du beau monde hein, quand même. Il y a aussi figurez-vous au VKS, c'est 24 rue de la Bourse, donc c'est à côté de la Garonne, hein, ça tombe bien. Une occupation sonore, exposition Floating Zone, c'est du 24 juin jusqu'au 23 juillet. Mais attention, ça c'est la première partie de l'expo, jusqu'au 16 juillet à l'espace VKS. Et ensuite, au musée des abattoirs, jusqu'au 23 juillet, il y a d'autres choses. Donc au VKS, on a une inondation où on utilise en fait le son pour inonder la cave du VKS. Moi j'attends de voir ce que ça donne. C'est le thème inondation donc de Mathias Delplanc et Oseanich et Kinstern de Clémentine Roy et Eddie Lardois. Et ben c'est une installation multimédia vidéographique avec une mise en espace sonore, un mirage auditif et paysage artificiel donc dans le rez-de-chaussée assez industriel quand même du VKS. Ce sera à voir. Aux abattoirs pendant ce temps, Drum de Dominique Biès, c'est une installation composée d'un ensemble de micros qui réagissent en fait à votre présence. C'est-à-dire ça va suramplifier tous les bruits que vous allez faire. Ça j'attends de voir ce que ça donne. Des cabines d'écoute, ce sont des vieilles cabines téléphoniques années 70, vous savez, les espèces de U renversées. Ils ont transformé ça en cabine d'écoute, pourquoi pas. Ça a l'air d'être intéressant, de Vincent Eplé. Plateforme de Cédric Emeyes sont des films, des plans fixes sur des quartiers choisis pour leur complexité. Et The Unperfect, où une immense cage où sont rassemblés des mégaphones qui permettent d'écouter une bande-son spécialement réalisée par le musicien Scanner. Et là aussi, c'est de l'électro expérimental bien amené. On y entend de subtils battements d'ailes, des chants d'oiseaux, etc. Moi, je ne fais que lire le dossier de presse. On ira. Toutes les informations, c'est sur volksystem.org. Donc, c'est soit au VKS, c'est Place de la Bourse, soit sinon au Musée des Abattoirs, Musée d'Art Contemporain. Et voilà, c'est une bonne occasion. Thomas.
On continue avec les agendas. Avec en ce moment, il y a le Ranking Battle Round 2 qui se, c'est un tournoi de jeux vidéo, donc qui se déroule aujourd'hui et se poursuit demain.
Là.
Oui, c'est sportif, c'est pour muscler les pouces.
Donc... Attention au claquage des tendons, hein, parce que la crampe Nintendo, je l'ai en ce moment, ça fait très très mal, et c'est pas en m'amusant.
Et donc ce tournoi de jeux vidéo aura lieu au cybercafé.net, c'est au 30 rue Farran, donc à Toulouse. Les inscriptions, ça se finit donc à 13h. Vous pouvez encore peut-être vous inscrire, mais de toute façon, si vous n'avez pas le temps de vous inscrire, vous pourrez toujours aller jeter un œil donc à ce tournoi. En ce moment, à partir de, ça a commencé depuis midi, on a la finale de, je relis mes notes.
Ça arrive, c'est normal.
Non, c'est pas. En fait, c'est Soul Calibur 2. Voilà. Ensuite, à partir de 13h, on a donc la clôture des inscriptions de Guilty Gear, Street Fighter 3, Third Strike, King of Fighters 2002, Tekken 5 et Virtua Fighter 4.
Que de la finesse, quoi.
Voilà. Que de la finesse. Bon, de toute façon, c'est des jeux de baston, hein. 13h30, on a le début de Guilty Gear X jusqu'à 15h. Ensuite, on aura les débuts de Tekken 5 jusqu'à 16h30. King of Fighters, donc démarre à 16h30 pour se finir à 18h. Et ensuite, on aura Street Fighter 3 Third Strike en soirée. Et puis, de toute façon, ça se poursuit encore demain. Vous pouvez y aller.
Voilà. D'accord. De mon côté, on va entamer les... Ouh, excusez-moi. Oui, j'avais oublié de signer. Si vous allez dans le Nord, on ne sait jamais. Hein, y en a qui préfèrent fuir la canicule en allant dans le Nord. Par exemple, à Amiens, ville connue pour sa grande cathédrale, et figurez-vous qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, vaudra le coup. C'est le voyage en utopie dans le cadre de l'année Jules Verne, puisqu'on fête centenaire à la disparition du romancier d'anticipation. Une exposition menée par Benoît Peters et Skutten, sont les créateurs de Urbicand, etc., c'est-à-dire les villes improbables, un peu années 20, Bruxelles, etc., dans lequel ils faisaient des événements assez étranges. Et il faut savoir que Skutten est un, si je me trompe, Skutten donc est un architecte qui est issu de Saint-Luc et qui s'est mis à faire la bande dessinée. Et Benoît Peters est un très très grand scénographe. On a vu son travail à Angoulême justement quand c'était l'année de Skutten. C'est plutôt intéressant. Donc là, il s'agit en fait de l'influence qu'a Jules Verne sur les créateurs modernes. Jules Verne en bande dessinée, c'est jusqu'en décembre 2005. L'inauguration a eu lieu hier et donc le lancement se fait aujourd'hui, et c'est l'occasion de passer de l'univers de Jules Verne à celui des cités obscures des dessinateurs. Très très beau dossier de presse, ceci dit, parce que moi je n'aurais pas franchement l'occasion d'y aller. Je pense que ça vaut le coup. À côté, la revue de presse, c'est Satyricon numéro 36, est en kiosque. Pour ceux qui n'ont pas la couleur et qui ne sont pas sur Toulouse, Satyricon, c'est tout simplement le journal satirique local. Pour ceux qui ont écouté Radio Éphémère, je vais pas répéter ce que Rascal a dit hier et avant-hier dans son émission. Sachez tout simplement qu'il est en kiosque, il vaut 2€, c'est un trimestriel, c'est fait par des bénévoles. Et c'est toujours aussi éclatant de brocarder comme ça les édiles locales. Jean-Christophe Tortora d'ailleurs s'est fait virer par la dépêche, j'ai eu des détails en plus, mais ça corrobe ce qui est dit dedans. Moudinque, notre cher maire de Toulouse, qui à mon avis va pas le rester longtemps. Donc Rascal vous a dit ce qu'il y a dedans, vous a lu les articles. Moi je vais vous dire qui sont les dessinateurs qu'il y a dedans. Sanson, évidemment, le rédacteur en chef. Le Rouge, Carali c'est le rédacteur en chef du Psychopathe Illustré. Deligne, c'est aussi le frère d'Edica, hein, Carali. Gio, Barros, Le Croix, Rousseau, Briden, bref, que du beau nom, quoi. Point de vue BD en caricature, et ça vaut le coup. Et puis voilà, et c'est juste occasion de bien spoiler, c'est pas mal. Sur les revues de presse, mais pourquoi à chaque fois je monte mon micro quoi, avant que je fasse ces respirations,
c'est pas... Je ne sais pas.
Peut-être parce qu'il fait un peu chaud hein, quand même. Revue de presse, continue avec Animeland numéro 113, numéro double, ouais. Juillet-août. Ouais, tiens, hop, oh, zou.
Merci.
Je sais que tu es jeté dessus, tu me piques pas la couverture, tu me piques pas le poster en page centrale, puisque dans ce numéro spécialité, le poster et la couverture sont tenus par Appleseed, dont la sortie au cinéma se fera le 31 août. On en reparlera tout à l'heure en cours d'émission. Un film réalisé par Shinji Aramaki, ainsi que Galaxy Express 999 de l'autre côté. Il va falloir photocopier. Soit acheter deux numéros, soit...
Effectivement.
Enfin voilà, donc il y a un compte-rendu du Festival d'Animation d'Annecy. Je sais que Thomas, t'aurais aimé y aller cette année. Bon, voilà.
Ben ouais, c'est pas ce qu'on veut, généralement.
Je sais. Une interview de Johan Sfar, le dessinateur du Petit Vampire. Une interview aussi de Haramaki Shinji, donc, qui fait l'adaptation au cinéma de Appleseed en 3D, qui aime beaucoup faire dessiner des objets techniques, etc. C'est pour ça qu'il a designé pas mal de robots dans pas mal de séries. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris, hein, qui sait, pour adapter la BD de Chiro. À côté, Akada Akemi, qui est une dessinatrice qui fait pas mal de personnages. Elle a commencé dans La Bataille des Planètes, qui est en cours de rediff sur France 4. Alors attention, La Bataille des Planètes, il faut savoir une chose, c'est que la série japonaise a été repackagée par des Américains. Moi, cette nuit, j'ai halluciné quand j'ai voulu regarder ça pour me remettre un peu au frais. Les Américains ont condensé ces deux épisodes en un seul avec des histoires qui n'ont mieux que ni tête, tout simplement pour pouvoir mettre des scènes avec leurs robots. Puisqu'en fait, c'est ça qu'ils ont rajouté, c'est une histoire de robots, etc. Bref, c'est laid, c'est moche à mourir. C'est une catastrophe. C'est là où on voyait quand même qu'ils étaient tombés bien bas en animation aux États-Unis dans les années 70. Akada Akemi a aussi dessiné les jolies bouilles de Amy Magic, Juliette Je T'aime et Pat Labor. C'est elle qui a fait donc la série et les films dans le design, enfin du moins jusqu'au tout dernier. Donc voilà, il y a un dossier Pixar, il y a aussi un gros dossier. Alors ça, c'est peut-être le sondage, le test de l'été, vous savez, les magazines féminins sur la plage. Quand vous avez rien à foutre, vous avez le test de l'été. Thomas, je te demande d'aller à la page 82 de ce magazine. Alors, page attends, 83, excuse-moi.
83.
Voilà, Gen Shinken, c'est un peu le pendant de Otaku no Video. C'est donc une série sur l'otaku, c'est-à-dire les gros fans. En haut à droite, l'encadré est violet.
Quel otaku êtes-vous ?
Voilà, c'est l'occasion. Alors
pourquoi,
l'otaku.
Pourquoi tu me le fais lire à moi ?
Je rappelle que l'otaku, ça n'est pas aussi positif qu'on ne l'entend. En France, au Japon, c'est vraiment extrêmement négatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est pire qu'un nerd, c'est un marginal pur et dur qui dépense tout son fric uniquement dans une seule obsession, et c'est pas forcément les petites culottes, ça peut être uniquement les sirènes de pompiers, ça peut être...
Ça peut comme les geeks ici.
Les geeks.
Les geeks, ouais.
Mais là, c'est pire, c'est des nerds. C'est l'étape au-dessus, hein. Donc voilà. Donc, quel genre d'otaku êtes-vous? Comme du sport vient d'arriver. Je crois qu'il devrait lui aussi pouvoir y rentrer, hein. Je ne sais pas. Mais lui, ça va. Il a deux passions. Il en a pas qu'une qui est dévorante. Il en a deux. Et il arrive à avoir une vie de famille avec ça. Donc, je crois qu'il est en dessous de l'étape. Non, range ce flingue du sport. On n'a pas commencé encore la partie violente. Donc voilà, c'est rigolo et c'est tout ce que vous voulez et puis voilà.
Et ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais. Est-ce que je vais te le taxer pendant les vacances ou est-ce que tu veux le lire?
Je crois que je vais pas y arriver. Tu veux pas te l'acheter plutôt? Comme ça, tu me revends le poster en cadre.
Bon allez, on s'arrangera en antenne.
Ouais. Enfin, j'espère. Oui, on m'a dit que j'annonçais pas assez les fonds sonores. Donc là, en ce moment, vous écoutez Herbalizer, extrait de l'album Mercenary. Voilà, c'est l'occasion de l'annoncer. On a commencé aussi tout à l'heure, donc il y avait Roudoudou, l'album Just a Place in the Sun. On va passer pas mal. Et Nightmare on Wax, son Smokers Deluxe, c'est un vieux classique de 93. Là aussi, c'est encore chez Ninja Tune pour le premier, le dernier, celui au milieu, je ne sais plus chez qui. Et je renchaîne avec Nightmare on Wax. Ouais, j'ai la flemme des fois. C'est l'été, hein, midi 20 sur la poubelle des radios. Radio FMR, le supplément week-end. Et on va entamer avec donc les bandes dessinées.
Ouais,
ouais.
Allez, combien je vais t'en taxer aujourd'hui? Allez.
Bon, on va commencer avec Mickey. Un scénario de Serge Merino sur un dessin de Hatton, mis en couleur par Nadine Thomas. Mickey, le premier tome, s'appelle Neuralysium. C'est dans la collection Graphica chez Glénat. C'est l'histoire d'une fille qui... Ben, un matin, vous vous réveillez à 20 ans. Et vous décidez, pour la première fois, de quitter vos parents, de prendre le train, de joindre une amie longtemps perdue de vue, comme ça. Elle a envie de fuir, des parents qui sont étouffants... une jeunesse un peu cachée. C'est ce que fait Mickey. Il faut dire que à la suite de la grande vague, il y a eu une forte montée de la mer, une crue un petit peu violente, si je peux dire,
zut,
et permanente. Tiens, t'as pas sorti la vanne.
Je
m'attendais, non mais c'est vrai qu'en décembre dernier tu étais prompt à sortir, mais bon. C'est-à-dire j'aurais aimé être le mec qui était sur son surf à ce moment-là, voilà, c'était la vanne.
Oui.
Voilà,
c'est bien de donner une seconde chance aux vannes quand elles sortent pas en direct.
Oui. Je fais partie des humoristes sans frontières, de ceux qui essaient de sauver les vannes d'un xème passage sur Chéri FM et pardon. Retour sur la FM. Donc voilà, je me suis embrouillé dans mes notes. Donc voilà, donc Mickey, les parents de Mickey ont été traumatisés parce qu'ils ont perdu pratiquement tous les leurs, justement suite à cette montée des eaux assez brutale. Tout comme une partie de la population mondiale. Et pourtant, elle a décidé d'échapper à ses parents, de rejoindre sa copine Colette qui vit dans un Bordeaux qui est sous le niveau de la mer avec des polders dans les rues. Et tout ça à cause d'une lettre d'une tante inconnue. Si la rencontre ne se passe pas exactement comme prévu, c'est un tableau qui va lui changer sa vie. Et de sa courte incursion dans le tableau, elle va en ramener un chien. Mais qu'est-ce qu'il y a de réel dans l'univers des peintures ? C'est une idée qui est une SF assez étonnante, assez étrange, et donc sur le thème des peintures. C'est pas la seule d'ailleurs, c'est le point commun avec le suivant. Sur un scénario de Serge Mérino, un dessin de Anton et de Nadine Collat, et au départ on se dit oui, c'est un dessin un peu nouvel manga, etc. C'est un peu cette idée-là, je pense, et ça c'est assez original.
Écoute, tu l'as très bien vendu la BD, je vais te la taxer pour
toi. Et flûte !
Et ouais. Parce que déjà la couverture, moi j'adore. Et à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'inventivité graphique, notamment les passages où elle est à l'intérieur des peintures. Ça me rappelle un peu le syndrome de Stendhal de Argento. Mmh. Et ouais, mais je te dirais ça.
C'est assez étonnant. En tout cas, moi j'ai vraiment été surpris. Enfin, c'est là où on a vraiment la chance en France d'avoir une bande dessinée. En franco-belgie, on a la chance d'avoir une bande dessinée qui laisse dans le commercial pas mal de place, je dirais, à de l'inventivité. Aux États-Unis, ils sont en train d'y revenir. Au Japon, ça existe, mais c'est plutôt marginal. C'est pour ça d'ailleurs que il y a un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Manga, qui a été lancé par un Français là-bas, que je salue bien bas, Frédéric Boilet. Et puis voilà. Et en tout cas, moi, c'est vraiment le coup de cœur. Et puis il y a surtout la chaleur. Et oui, une fille en couverture, une fille canon, et voilà.
Je vois pas le rapport.
D'accord. On continue toujours dans un futur un peu plus tourmenté, très cyberpunk comme l'aime un certain Jean-David Morvan, ça tombe bien, c'est lui qui en a fait le scénario. Et là aussi il est question de peinture, et oui, c'est plutôt surprenant. Donc il s'agit de T-Ho-Ho, The Only One, c'est une chaîne de télé, ça vous allez à découvrir. Il ne peut en avoir qu'une, c'est la une, pardon, excusez-moi. J'ai pas pu m'empêcher de la placer, celle-là.
J'aurais bien aimé être le surfeur sur sa vague. Mais c'est pas là qu'il fallait la placer ?
Non. Donc, sur un scénario de Jean-David Morvan et un dessin de Ben et de Sacre, T.O.O. The Only One, le principe de précaution, c'est dans la collection Zenda, toujours chez Glénat. Et c'est l'histoire de Heidel. Heidel est une petite galeriste, petite mais une jolie fille, en tout cas un joli brun, qui cherche à présenter des œuvres qui lui font titiller l'esprit, plutôt que des artistes qui s'asseyent sur leur notoriété acquise au prix des œuvres qui s'arrachent chez les amateurs d'art éclairé. Et c'est plutôt le contraire de son ex-employeuse, Magrita, une galeriste, je veux dire, plutôt à succès et très futile, qui l'a invité à un vernissage où on parle plus mondanité que pertinence artistique. Car on a beau être dans un futur, limite cyberpunk, dans une mégapole bourrée d'inconvénients, il reste une place pour stimuler son esprit à l'ancienne, en passant des heures, en regardant un dessin qui ne bouge pas, une matière figée et complètement old school. Enfin bref, lors de ce vernissage où Heidel s'emmerde ferme, il n'y a pas d'autre terme, eh ben, elle voit d'un balcon, dans un immeuble, dans un autre immeuble, dans le quartier, des peintures qui excitent sa curiosité. Mais vraiment, par un côté intense, très torturé, qu'elle voit de loin, qu'elle entreaperçoit, et elle se dit, mais il faut que je l'expose. L'occupant de l'appartement n'aime visiblement pas la compagnie des humains, et malgré tout, eh ben, Edel va forcer son entrée, va forcer la rencontre par ses charmes et ses relations peu recommandables, uniquement par amour de l'art. Et elle va tomber sur un artiste limite artiste. Car suite à une bévue meurtrière, Eliane Famis, donc l'artiste en question, fut le premier cyberflic et probablement le dernier. La chute d'un satellite sur l'une des gigantesques centrales électriques va brutalement changer la donne. Sous les lumières des caméras, sous les lumières des bêta-cams, parce que c'est les seuls à tourner dans un monde qui tombe au chaos sous la lutte, je vais dire, des jeunes délinquants. Hein, on va remettre ça en place, tout ça en une nuit. Jean-David Morvan revisite Cyberpunk. On sent bien qu'il maîtrise bien le sujet. Il a fait avec Navis. Enfin, Navis, c'est pas du cyberpunk, mais il a fait plein de séries dans ce thème-là, chaque fois dans un futur, dessiné un peu manière manga, etc. Et malgré tout, à chaque fois, eh ben, il trouve un angle différent. Et là, justement, l'angle en question, c'est la peinture. Et ça, c'est assez étonnant. C'est plutôt classe. Et là, franchement, bravo, Jean-David. Moi, je suis resté sous le charme. Jean-David Morvan au scénario, Ben et Sacre au dessin, qui est quand même pas mal. Tihoho, The Only One. Le premier tome s'appelle Le Principe de Précaution. C'est dans la collection Zenda chez Glénat. Et Thomas, toi, t'as flashé.
Bah, je l'ai lu pendant que tu faisais la chronique. Et puis, de toute façon, moi, je suis jamais à court de lecture pendant mes vacances. Alors, je vais aussi te la taxer.
D'accord. On va parler de lecture. On parlait de cyberpunk.
Allez.
Ouais, il y a Appleseed, excuse-moi, j'ai dit une bêtise, j'ai fourché. Donc il y a Ghost in the Shell qui vient de sortir le cinquième tome en DVD.
Ouais, la série Standalone
Complex. Il y a Appleseed, toujours de Masamune Shiro, qui sort à la fin du mois d'août en salles obscures. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a une playlist de fou, puisqu'il y a Boom Boom Satellites, il y a Yuichi Sakamoto et Bassman Jax, s'il vous plaît!
Tried to live without the makeup. Never tried to live.
Voilà, et j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure le fond sonore que j'avais mis, c'est Boards of Canada sur la BD Tihoho. Pourquoi ? Parce que dans un des personnages porte un t-shirt Boards of Canada. Voilà, ah. C'était un clin d'œil. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Warp. Plus exactement, c'était un remix de Stereolab Kid for Today. C'est un vieux titre, oui, je sais, mais bon, voilà, c'était le plaisir. Je sais, alors là, cette année, point de vue lire, vous allez être gâtés avec moi. D'abord, on va commencer, donc on a parlé donc de Appleseed qui sort le 31 août au cinéma, qui est un film qui est réalisé donc par Shinji Aramaki.
Ah tiens, une colle, qu'est-ce qu'il a fait avant lui ?
Je crois qu'il a participé... J'ai pas eu le temps de réviser.
Non, je ne sais pas moi non plus.
Enfoiré. Enfin bon, tout ça pour vous dire que Appleseed, c'est une excellente BD de Masamune Shirow, dans lequel, c'était juste avant Ghost in the Shell, où là, sacrilège envers le manga, on pilote des robots en se branchant direct avec le robot. Non, jusque-là, c'était à l'ancienne qu'on pilotait, c'est-à-dire à la main, au poignet et... au bustier, hein, comme ça, voilà. Appleseed, c'est une excellente BD d'anticipation plus que de cyberpunk, puisque la Terre est complètement minée par des guerres entre États qui n'existent pratiquement plus, sauf à un endroit. Et il se trouve que cet endroit, le rêve de ce qui reste, c'est-à-dire Gaïa, dans lequel un État artificiel, en fait, où les humains sont servis par des êtres qui leur ressemblent, qui sont des pas vraiment des robots, mais pas de loin, qui sont destinés à les servir et surtout à servir de fusibles. C'est-à-dire que en cas de guerre, c'est eux qui prennent pour éviter que les humains se massacrent. On leur montre la stupidité de la destruction aryenne, raciale, religion, etc. par ces robots. C'est assez étonnant à réfléchir. Une BD très 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 choc à lire. Masamune Shirow, 4 tomes chez Glénat, plus un databook. Malheureusement, le databook japonais est beaucoup plus complet que celui qu'on a vu aux États-Unis et en France, et parce que malheureusement, la manga a été traduite via le comics qui est sorti aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a des renversements d'images énormément et des erreurs de traduction. Et là, c'est bien malheureux. Autre chose aussi à savoir, c'est que Masamune Shirow dessine comme un dieu, il dessine tout seul, c'est très rare, hein. Il n'a plus fait de BD depuis vraiment un bail, mais par contre, c'est l'un des rares mangaka à dessiner tout seul, et il a énormément de lectures, des lectures très techniques, le K&R, le fameux black book du langage C, il le cite, des bouquins sur la psychologie et tout ça, et il n'hésite pas à les citer, c'est flippant le niveau technique qu'il a. Et carrément, dans le deuxième tome d'Appleseed, vous ne pourrez pas le lire si vous n'avez pas lu le GEB, le Gödel et Scherbach. C'est un bouquin d'initiation à la logique formelle qui est sorti en France chez Interédition de Douglas R. Ostader. Ouais, le fils du prix Nobel de physique de 1948.
Non, voyons.
Un bouquin d'initiation à la logique formelle, c'est un peu comme les mathématiques, on vous apprend le raisonnement, mais écrit manière Monty Python. C'est assez étonnant à lire, et c'est là où tout d'un coup on se dit, mais attends, un manga arrive à vous faire lire ce genre de bouquin, c'est assez étonnant. Et justement, ça passe d'autant mieux. Donc on attend Appleseed avec beaucoup d'impatience. À noter que contrairement à l'OAV assez calamiteux qu'avait produit Gainax, qui se situait en fait entre deux tomes, entre le tome 1 et 2, et là il s'agit d'une histoire pas mal remaniée. Thomas.
Puis bon, on s'est collé nous-mêmes tout à l'heure avec la filmo qu'on ne connaissait pas de Shinji Aramaki. Entre temps, j'ai eu le temps de réviser pendant que vous aviez parlé. Donc en fait, c'est le mecha designer sur le film Naruto et Wolf's Reign et la dernière série Astro Boy. Et il a participé aussi à la série Full Metal Alchemist qui passe en ce moment sur le canal, qui a été diffusée. Je sais plus si elle passe encore.
Oui, enfin, donc c'est pas. C'est quelqu'un qui sait dessiner les mechas et il y a intérêt parce que Shiro s'est bourré d'engins. C'est-à-dire que la moindre monte, le moindre flingue, il adore. Il a fait 3 artbooks, le premier sur les robots, le deuxième sur les armes blanches, le troisième sur les flingues. Mais surtout, il aime tout ce qui est engin un peu technique, etc. Il n'hésite pas à foutre des détails. C'est-à-dire, c'est étonnant, c'est dessiné, c'est un dessin qui est assez jeté, mais en même temps, c'est bourré de technique et dans le. databook japonais d'Apple Seed, il y a des bleus des robots et c'est étonnant le niveau de précision qu'il y a mis, c'est-à-dire que voilà, c'est un furieux de ce côté-là.
Il y a des notes sur les côtés, rassure-moi. Ouais, là je me suis inspiré du design des années 80 en Tchécoslovaquie, gnagnagna.
C'est assez
flippant,
flippant de se dire, mais attends, là Xavier il nous fait lire 5 fois 192 pages, donc ça fait pas loin, s'il vous plaît, de 950 pages que je vous fais lire, plus Godel et Sherbach, 500 pages, on tient le compte, ça fait donc 1500 pages, et j'en rajoute, excusez-moi, 700 avec le guide du routard galactique, plus exactement, le routard galactique de Douglas Adams. C'est chez Gélus, c'est une trilogie en 5 tomes. Le film sort le 13 août. Douglas Adams, c'est un espèce d'allumé. Il a commencé en fait par une série radiophonique. Sa série radiophonique, c'est le guide du retard galactique qu'il a remanié pour en faire après les bouquins, qu'il a remanié pour en faire une série télé, qu'il a remanié pour faire un film. Et il n'a pas eu le temps de faire le film. Vous savez pourquoi ?
Parce qu'il est mort.
Exactement. Et Douglas Adams, c'est quelqu'un qui a énormément innové. Si vous allez sur Internet, peut-être vous connaissez le Babelfish, le poisson de Babel, sur Alta Vista, qui vous permet de traduire une page en direct. C'est lui qui a inventé ce petit poisson qu'on se met dans l'oreille et qui traduit toutes les langues connues de la galaxie. Il a aussi inventé le concept du PDA, vous savez, l'ordinateur de poche qu'on écrit dessus, etc., et qui a une connaissance énorme. Et ben, c'est ça, le guide du routard galactique, c'est un truc qu'on a en poche. Mais comme se trimballer en poche les guides de tous les pays de la planète Terre, ça prendrait trop de place, et ben là on l'a dans un PDA, un truc électronique qui en plus est doué d'une synthèse vocale. Une synthèse vocale d'ailleurs qui est capable de faire une bande-annonce de cinéma. Une bande-annonce d'ailleurs, tu l'as vu.
Oui, qui explique justement qu'est-ce qu'une bonne bande-annonce.
Une bande-annonce en général est lue par un homme de 2 mètres 15 qui fume 3 paquets de clopes par jour depuis sa plus tendre enfance. Et c'est à pleurer de rire. C'est un humour de Monty Python, normal puisqu'il a plus ou moins oscillé autour des Monty Python sur la dernière saison. Douglas Adams en plus a une traduction française qui ne reprend pas les noms de la version originale, mais en rajoute encore plus. C'est assez étonnant. Ça fait chier les puristes hein, quand même dans le milieu, mais c'est à pleurer de rire.
Ouais, c'est un classique, hein, de toute façon.
C'est un immense classique parce que merci pour tout le poisson, la vie, l'univers et le reste. Cherchez dans la bande-annonce, il y a un message caché. C'est la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Alors on a la réponse. Le problème, c'est qu'on n'a pas la question.
Pourquoi 42 ?
Oui, ben justement. Alors ça, vous le verrez dans l'émission 42 de cette émission. Enfin voilà, tout ça, on vous donne trop d'indices déjà. On en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et franchement, vous allez...
aller voir le film cet été. Voilà.
Ça ou sort lire les bouquins, parce que les bouquins sont sortis en intégrale, donc chez Gélu, et ça vaut le coup. Ça sort le 13... Attends, excuse-moi. Ça sort le 13 août, effectivement. À noter que le casting est plus américain qu'anglais, c'est un peu dommage, mais il y a des humoristes anglais de la télé actuelle de la BBC. Douglas Adams qui a toujours eu une relation mi-figue-mi-raisin avec la BBC. Mais quand je dis qu'il a innové, Douglas Adams, c'est-à-dire que le fameux guide du routard galactique, c'est l'ancêtre des wikis, l'ancêtre des encyclopédies collaboratives. Vous avez une idée d'un sujet, vous en parlez sur le net, en fait, en faisant les liens avec les autres sujets, etc. C'est donc H2G2. Le Hitchhiker Guide to the Galaxy, vous l'avez aussi en poche puisqu'il est ressorti pour portable comme ça sous la main. Vous avez les sujets, l'encyclopédie, c'est idéal pour briller dans les bars. Et c'est la BBC qui l'édite. Et figurez-vous que la BBC, pour la mort de Douglas Adams, ses obsèques ont été les premières retransmises en webcast sur Internet. Fallait oser. Et ben figurez-vous qu'il y avait tous les humoristes qui ont fait un pari, c'était de placer un mot incongru dans leur oraison funèbre. C'est quand même assez fou, furieux. Ouais. Voilà, Douglas Adams, il a passé 25 années de sa vie à faire un truc complètement disjoncté et on attend le film avec impatience.
Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu viens de faire une chronique sur les livres, sur la série télé, sur la bio de Douglas Adams, plus sur le film, et on parle même pas du film encore, on va faire une spéciale autour du film, je pense.
Et oui, et on va pas en dire plus, on va juste dire, si vous connaissez Android Paranoid, le dernier album de... c'est pas R.E.M., c'est...
Radiohead.
Et ben Android Paranoid, c'est une allusion à l'un des personnages du Guide du Routard Galactique. C'est vous dire qu'en fait vous avez manqué complètement plein de trucs. C'est comme Doctor Who. Doctor Who, on connaît pas en France, et pourtant il a fait 2 saisons, ce monsieur. Il en a écrit 2, il en a réalisé tout. Enfin voilà quoi, c'est.
Il fallait pas te lancer sur ce sujet-là, Xavier. On va encore déborder.
Oh, tu penses, il est seulement 41 sur, midi 41 sur la poubelle des radios, c'est supplément week-end, et on va parler de télévision avec du sport. Avec, effectivement, ben, il y a les programmes de rentrée qui s'annoncent et tout le reste, mais surtout, M6 fait le ménage dimanche soir puisqu'il n'y a plus Culture Pub, c'est bien dommage, mais l'autre victime...
Ni le film de cul.
C'est ça le problème. Que je tiens à remercier donc Cutmaster qui a donc fait ce mix absolument exclusif du morceau de Marley, You'll Never Know, et donc son remix c'est What You Got in Your Ass. Et donc je remercie Cutmaster ex Skyrock et avec qui j'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs de bosser pour ce truc complètement incongru qui va nous attirer des emmerdes.
Ça c'est sûr.
Hop là, excusez-moi, et qui va nous attirer des emmerdes du CSA quand même, vu l'heure. Donc Dominique, si tu nous écoutes, très cher aimé ancien maire, je suis désolé, c'est un peu la chaleur et tout, je crève de chaud. Thomas, tu peux me passer s'il te plaît merci. Ah, dans les lunettes, ça fait du bien. Thomas, du sport à la tienne?
T'en veux?
C'est bon, je suis servi.
Non, ah d'accord, ah oui, effectivement.
Allez, à la tienne. Hein.
Ok. Faut dire là que ambiance plage sur Radio FMR et tout. Oui, comme ça tu mets.
Ah,
attends. Il y a un vendeur de chouchou là. Voilà, on a la paix. Plus de vendeur de chouchou. Ah, tu m'avais dit en fait que on faisait un spécial plage là parce que. Enfin, tu m'avais dit que tu faisais un sujet sur les films de plage.
sur une filmo d'un mec qui a fait beaucoup de films de plage.
Ah, ça doit être sympa et tout, tranquille.
Youpi.
Ça doit être quelque chose de gay, panard, amusant quand même la plage.
Non. Dans sa filmo, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand il filme la plage, ça veut dire qu'il filme la mort.
Ah merde. Tu parlerais pas d'un certain...
Takeshi Kitano.
Évidemment.
C'est l'occasion de saluer la sortie en DVD de Usen at the Sea chez HK Video, qui va peut-être pouvoir vous accompagner cet été avec vos lecteurs DVD.
Portable.
Donc Kitano, il est maintenant assez connu en Occident. Alors je sais pas si vous êtes tapé toute sa filmo, si vous connaissez pas mal de films qu'il a fait.
Moi j'ai vu son émission télé qu'il fait sur la télé japonaise privée. Ça chier.
Donc tu l'as vu déguisé en chaussettes géantes, en tapette, en mouche.
Pas loin, ouais. C'est une espèce, un mix malheureux entre Nulle part ailleurs et Le juste prix, et c'est à chier. Voilà, donc en fait le cinéma au Japon ça paie pas des masses, donc c'est obligé de faire des cons sur les télés commerciales.
En fait, ce qu'il faut comprendre chez Kitano, c'est qu'au départ il a commencé sa carrière en tant que comique complètement grotesque, et puis suite à un concours de circonstances assez heureux finalement qu'il a pu développer un autre univers au cinéma en tant que réalisateur. Alors Kitano, il faut savoir qu'il a débuté dans ce qu'on appelle les manzai au Japon. Ce sont des duos de comiques, un peu à la Chevalier d'Aspalès,
Cadet Olivier,
voilà, etc. les duos de chez nous, voilà. Et donc ce duo de manzai s'appelait les Two Beats. Et donc c'est pour ça il a gardé son pseudo d'amuseur public au Japon. Il s'appelle Beat Takeshi. Voilà. Donc,
il faut signaler que dans une de ses premières apparitions au cinéma en tant qu'acteur, c'est dans Goodbye Mr. Lawrence.
Furio,
hein, le titre français. Et il est crédité en tant que Takeshi Beat.
Ouais. Et donc voilà, merci pour cette précision. Et alors en fait, Xavier, t'as commencé à parler justement de son émission télé au Japon, et on n'a pas dit en fait ce qu'il faisait, on a dit comment il était habillé. En fait, ce qu'il fait, c'est que des fois il a des sketchs, il prévoit des sketchs où il humilie son équipe télé en leur donnant des défis, par exemple aller insulter des yakuza ou aller bastonner un journaliste qui ne plaît pas à Kitano à coups de parapluie. Donc ça peut faire des shows assez rigolos. Et donc ce qu'il fait, c'est que une semaine il travaille à la télé et il s'en sert pour monter ce qu'il a tourné finalement pour le cinéma la semaine précédente. C'est pour ça qu'il mène deux fronts de carrière. Il en a 3, 4, 5, puisqu'il est poète, il est peintre, il est écrivain. Voilà. Et donc,
il est aussi prof de gym. Non, pardon.
Ah non, c'est dans un film. Dans Battle Royale, il était prof de gym, effectivement. Donc, je parlais tout à l'heure d'un concours de circonstances qui l'avait amené à commencer sa carrière de réalisateur. Il faut savoir que, donc, justement, il avait débuté en tant qu'acteur dans Goodbye Mr. Lawrence, mais il a aussi...
Goodbye ou Merry Christmas.
Merry Christmas, c'est une immonde erreur, il faudra le rappeler à la fin de l'émission.
C'est une immonde erreur.
Donc il a commencé avec Violent Cop en tant que réalisateur, c'était en 89, et c'est un film de commande. Les Japonais voulaient absolument faire un remake de l'Inspecteur Harry, version Japon. Ouais, et ça devait être Kinji Fukasaku qui devait le réaliser. Et Kinji Fukasaku qu'on est depuis pour avoir fait Battle Royale, mais il avait déjà une solide carrière derrière lui. Et bon, à l'époque, il était déjà vieillissant, et puis il s'était fait porter pâle pour la réalisation. Et puis finalement, il fallait un réalisateur à la place. Et c'est tombé donc sur Kitano qui devait interpréter le rôle principal. Et alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a dit, bon, de toute façon, faire un remake de l'Inspecteur Harry, ça m'intéresse absolument pas. Je vais faire un film super violent, à la limite. Bon, ça, il a le seul point commun qu'il peut avoir avec les films de Clint Eastwood, c'est qu'il est un peu réac. Le film est un peu réac.
Attention à ce que tu dis. Hein.
Voilà. Et dans ce qu'il a dit, c'est que
Clint Eastwood, il a piégé un président républicain qui a assassiné la femme qui baisait. Hein.
Ouais.
C'était un républicain dans l'histoire.
Et donc ce que je dis, il y a une forte tradition au Japon quand il y a un réalisateur débutant qui fait son premier film, il y a l'équipe qui fait son bizutage. Alors il y a ses collaborateurs refusent de suivre ses directives et tout. Et Kitano, il a dit je vais pas me laisser faire. Donc le premier jour, il est arrivé sur le tournage en costume de samouraï. Il a dit vous allez pas me faire chier comme ça. Et finalement tout s'est bien passé. Ensuite, son deuxième film, c'était en 90. Il a été longtemps connu en France sous le nom de Bowling Point. Et en fait, il a fait l'objet d'une ressortie chez nous il y a quelques 2-3 ans, ou un peu plus même, sous le nom de Jugatsu, son titre original. Et c'est là qu'il a commencé à mettre en place son univers cinéma, c'est-à-dire son personnage de Yakuza déjanté. Alors en plus, dans le film, il est bisexuel, s'intéresser à des losers et des mecs complètement, complètement inhibés. Et puis bon, et puis ses gags nonsensiques, surtout je sais pas si vous l'avez vu, Jugatsu, du sport,
non,
peut-être.
Non.
Ah, bon, c'est pas grave. Bon, il y a un personnage d'une femme black sur lequel ils s'acharnent tous. Il y a le personnage de Kitano, le Yakuza, il pense qu'à sodomiser ses collaborateurs Yakuza. Enfin, c'est rigolo. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il a commencé à mettre en place son univers à base d'ellipses, son système de narration qui est si particulier. Et le film suivant, en fait, c'est donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est A Sin at the Sea, qu'il a réalisé en 91. Et là, donc, c'est l'histoire d'un jeune éboueur sourd-muet qui se prend d'une passion obsessionnelle pour le surf. Donc, on est en pleine actualité, puisqu'il y a Brice Denis qui est sorti il y a pas longtemps. Et
comment il l'a cassé, là, le film?
Cassé. Et soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, qui est sourde et muette également, le jeune homme progresse d'apprentissage éprouvant en compétition harassante.
Enfin, surtout, on parlait d'otaku tout à l'heure, mais des bandes de surfeurs. Il y a une sacrée concurrence quand même sur la plage.
Oui.
C'est pas tendre. Hein.
Ah non, absolument pas. Et donc, avec ce film, il a également commencé à mettre en place un univers un peu plus autorisant, on va dire. Puisqu'avant, c'était plus... Violent Cop, c'était un polar et un film de commande. Bowling Point, c'était la mise en place d'un petit univers avec son personnage. Et puis là, c'est vraiment un univers qu'on pourra retrouver notamment dans Dolls ou dans Hanabi.
C'est plus de la vie quotidienne, quoi.
Ouais, et puis une poésie assez macabre, mais une poésie un peu
sombre,
voire franchement des fois suicidaire, puisque bon, non, j'en reparlerai tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Sonatine. Et donc là, c'est la BO qu'on écoutait tout à l'heure. Non, c'est après, Xavier.
Ah merde.
Il a fait Sonatine, Mélodie Mortelle, et ça a été le premier film de Kitano qui a été diffusé en France. Et donc il a réalisé en 93. Et donc moi j'adore ce film parce que dans ce film sont des yakuza qui ont un contrat sur leur tête et ils sont obligés de s'exiler à la plage. Alors pendant tout le film ils se passent leur temps à se faire chier, ils ont des chemises à fleurs complètement dégueulasses. Et puis bon, qu'est-ce qu'on pourra faire aujourd'hui? On va se faire des bastons de feu d'artifice, on va jouer au frisbee. Enfin c'est super drôle.
C'est assez étonnant.
Des batailles de sumo dans le sable.
C'est décalé.
Et ensuite il aura fait un film qui correspond plus à son univers qu'il développe dans ses shows télé, c'est Getting Annie. Il l'a réalisé en 95 et alors je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur le net parce que là j'étais vraiment... Alors le héros du film, Asao, est un homme obsédé par le sexe. Rêvant de faire l'amour en voiture, il cherchera à acquérir un véhicule par tous les moyens. Cambriolage de banque, vol, mendicité, rien ne sera oublié. Après une série de déconvenues irréversibles, Asao décidera que tout compte fait, baiser dans un avion doit être 100 fois mieux. Le voici donc reparti sur les routes à la poursuite de son rêve de sexe, côtoyant une équipe de cinéma désuète, une bande de yakuza obsédés, un savant fou qui veut le rendre invisible, interprété par Kitano, et divers autres personnages totalement déjantés. Donc ça, il est sorti en France. Hein. Moi, je l'ai scandaleusement loupé. Peut-être que vous l'avez vu. Non, toujours pas. Ah, c'est dommage. Voilà. Et ensuite, c'est à cette époque-là qu'il a eu son fameux accident de moto.
Yes.
Et qu'il a justement laissé son visage paralysé, enfin la moitié du visage paralysé. Et justement, il aura plusieurs tics ensuite dans le reste de sa filmo. Il jouera beaucoup sur ce côté personnage avec un visage qui n'exprime quasiment rien, mais avec un seul tic, un petit clignement d'œil. On peut voir toute la violence qu'il y a à l'intérieur du cerveau du mec. Voilà, et donc il aura d'ailleurs avoué plus tard que c'était en fait une tentative de suicide. Son accident de moto.
Ah oui, quand même.
Et c'est à cette époque-là qu'il réalise en 96, donc, Kids Return. On va laisser un peu la BO parce qu'elle est géniale. Dans la programmation.
Oui, je me suis planté.
Ouais.
Voilà. Excusez-moi.
Higashi
Attends, excuse-moi, je t'avais.
Non, enfin, j'ai fait. C'était une BO de Joe Hisaishi qui, dont la première collaboration avec Kitano datait justement de Senad aussi.
Voilà, faut savoir que Joe Hisaishi, c'est pas un inconnu en France. C'est lui qui a fait toutes les bandes son de tous les dessins animés de Miyazaki, Takahata, pratiquement tous. Donc c'est un compositeur qui est très connu et qui maintenant bosse avec Hollywood, si je me trompe.
Ah, ça tu m'en apprends une. Donc voilà, Chris Rutten, il a réalisé en 96 et c'est son film le plus autobiographique. Parce que non seulement il apparaît pas à l'écran, mais on suit le parcours de deux jeunes paumés qui sortent, enfin qui passent leur temps à faire l'école buissonnière et faire des blagues pendant que leurs collègues essaient d'assister au cours raisonnablement. Et il y en a un qui commence à apprendre la boxe. Et il va traîner son ami pour le voir boxer un jour. Et puis son ami se révèle beaucoup plus doué pour la boxe que lui. Je crois que du sport, tu l'as vu le film ?
Kids Return,
ouais. Il est génial. Hein.
Ouais.
Ah, ça, c'est mon film préféré de Kitano, de toute façon.
C'est un bon film sur la boxe.
Oui.
En plus.
Ouais,
c'est,
en plus.
C'est pas mal, hein. C'est pas le sujet principal, mais enfin bon, la boxe est assez bien filmée, moi, je trouve. Mm. C'est vraiment pas mal, quoi.
Et puis, on voit la nette tendance de la personnalité de Kitano, son attrait pour l'autodestruction, en fait. Parce que les deux gamins vont bousiller toutes les cartes qui sont dans leurs mains depuis le début du film. Et puis voilà, ils sont condamnés à... Ben, on va pas spoiler le film non plus. Et donc après, bon, on va terminer rapidement sur le reste de la filmo de Kitano. Puisque ensuite, il aura réalisé en 97 le film de la consécration qui l'aura fait reconnaître en Occident comme un des plus grands réalisateurs japonais actuels. C'est Hanabi. Donc c'est son film le plus maîtrisé à ce jour, à mon avis. Il a eu le Lion d'Or à Venise la même année. Et voilà, et donc la scène finale se déroule justement sur la plage. Donc on avait pu déjà en parler avec Sonatine qui s'est déroulé entièrement sur la plage. Il y a toujours une scène de plage dans ces films et c'est souvent associé à quelque chose qui se casse, quelque chose qui meurt. Voilà. Ensuite, il aura fait L'été de Kikujiro en 99. Là, c'était en réaction aux critiques qu'il accusait de toujours dépeindre des Yakuza, le monde de la pègre, etc. Et puis, bon, là, il disait je voudrais pas m'enfermer dans un genre. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce film finalement le plus lumineux de sa carrière pour l'instant. Et on suivait le parcours toujours dans Yakuza, mais là, il était en vacances et puis il accompagnait un petit gamin à la recherche de sa maman. Voilà, et puis évidemment, ensuite il est allé s'exiler le temps de tournage aux États-Unis pour tourner Brother. Mmh. Voilà, qui rappelle un peu le Scarface de Palma, un peu. Hein. Enfin...
Ouais, il y a des références, mais enfin bon, c'est un film de commande, c'est vraiment le film de commande, à mon avis.
Hein. Mmh. Bah, il y en a beaucoup qui disent ça, mais quand tu écoutes les interviews de Kitano, alors peut-être que ça participe au discours promo du film, mais. Moi je suis pas c'est pas mon avis en tout cas. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'univers de Kitano dedans et que ça justement ça servait l'histoire d'aller tourner aux États-Unis. Voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'il a perdu son âme un peu là-bas, mais moi je l'aime bien ce film. Et toi Bisport?
Non, mais ça reste un bon film.
Ouais, tout à fait. Voilà.
Ok, hein, il y avait eu mieux avant, quoi, justement. Quoi.
Et donc ensuite, en 2002, il aura fait Dolls, le film, un des films les plus poétiques qu'il ait fait avec Senna the Sea. Et donc Zatoshi, qui est son dernier film à ce jour, qu'il a réalisé en 2003, qui était aussi une commande, et qui reprenait un peu la mythologie des nombreux films consacrés aux masseurs aveugles. Qui avait fait donc pas mal de films assez reconnus au Japon. Alors parmi la filmo que je viens de vous dire, on va terminer dessus. Est-ce qu'il y a un film que vous préférez là-dedans, compte tenu des films que vous avez vus?
Celui dont on parlait tout à l'heure, justement,
Senna the Sea,
est vraiment étonnant parce que c'est absolument pas l'image qu'on s'attendait qu'il allait donner. Il nous mène véritablement ailleurs, c'est-à-dire il va parler de l'exclusion dans une société qui est minée sur le paraître et la rentabilité, et là-dessus, justement, il va parler de deux individus en marge, il arrive à faire passer quelque chose, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a... Voilà, ça m'a calmé, c'est... on sait pas Takashi Miike, mais et voilà, quoi, c'est très beau.
Bon, tu auras remarqué que j'aurais passé sous silence son apparition dans Johnny Mnemonic. Donc, on a le DVD qui sort cet été, donc c'est Us and the Sea chez HK. Vous aurez dans le DVD bonus, donc il y a le DVD film, le DVD bonus en plus, donc un livret de 48 pages sur le film, une interview de Kitano, les bandes annonces inévitables de HK Vidéo, un contenu DVD-ROM et un lien internet.
D'accord. Oui, excuse-moi, je suis en train de caler parce que je me suis dit, on commence à déborder, mais c'est une spéciale plage et du sport, de la plage, il va nous en montrer à 100 à l'heure. Là, je suis étonné, parce que autant moi j'ai fait un triple plantage tout à l'heure, Corona rien, mais alors du sport, lui, il est arrivé pile poil, paf,
ouais,
lumière
vu,
rouge.
Pour le truc, ouin, puis ça fait ouin, la fin, c'est la musique qu'il y a de Yon Amer. Et Yon Amer qui, auparavant, une décennie avant, eh bien, officiait dans des groupes de jazz rock.
Exact.
Il faisait partie de groupes de jazz rock, il avait joué avec Stanley Clark et des mecs comme ça, Chick Corea, enfin bon. Toute cette nouvelle vague qui essaie de sur après l'incursion de Miles Davis, qui essaie justement de dépoussiérer un petit peu le jazz et d'ouvrir le jazz à d'autres influences, à d'autres instruments. Et Yon Amer, ben voilà, il a terminé comme ça. Bon, enfin bon, il a dû faire un paquet de pognon quand même avec ce générique, qui est un des génériques les plus connus, hein, faut dire, des années 80. C'est un des génériques qui a bien marqué. De la série Miami Vice. En plus, c'est pas vraiment une série de plage, hein, je te signale.
Ah, quand même.
Il y a beaucoup de palmiers quand même.
Elle a pour elle le fait d'être située à Miami, mais enfin, à part ça, bon.
Attends, il y a un flic qui vit dans un bateau. Il
y a son alligator.
Ouais, il y a quand même un épisode vachement fameux avec qui a plus pour personnage principal Edward James Olmos, c'est-à-dire le lieutenant Castillo, hein, où à la fin carrément il dégomme le mec avec un sabre de samouraï. Je rappelle de cet épisode.
Pas vu, non.
Et qui se passe sur une maison sur le bord de la plage et tout, mais vraiment qui est très très bon, hein, très bon épisode. En fait,
j'ai vu que ça sortait en DVD là cet été, le coffret de la série, la première saison.
Ouais, mais enfin il y en a d'autres, hein, comme ça. Il y a également pas mal de séries des années 80. Hein, on sort des coffrets des premières saisons. Il y a également K2000, enfin bon, des séries de ce genre.
Enfin, bon, c'est pas le même.
Le problème c'est de savoir si on peut obtenir les séries avec les versions originales ou si on va automatiquement se taper la version française, hein, parce que bon, bah, des fois c'est pas extraordinaire.
Oh, je remarquais qu'ils faisaient des efforts de ce côté-là.
Et je voulais demander du sport parce que je comptais m'acheter le coffret DVD. Alors il y a combien de saisons de Miami Vice?
Bonne question.
Alors ça tombe.
Alors,
bien,
consultation du bouquin.
Alors normalement il faut regarder à deux flics à Miami, hein, parce
je crois
que c'est
qu'à mon avis
française, hein,
bon, il y en a eu
non,
trois,
il y en a
je
eu
crois.
Cinq ou six, hein, il me semble.
Ah, tant que ça
quand même, ouais, quand même.
Et alors d'ailleurs ça me permet de dire parce qu'il y a Desperado qui a été diffusé donc sur TF1 dimanche dernier, et donc le mec donc Danny Trejo, le baraqué, ce moustachu et tatoué, c'est lui qui va incarner donc
114 fois 50 minutes, ça fait quand même pas mal d'épisodes, hein, 114 épisodes en tout, hein. Je te dis, ça fait 5-6 saisons tranquille, hein, pas de problème.
Bon. Hein. Vu le nombre de séries de mangas que tu m'empruntes, mon cher ami.
Ouais, c'est. Hé hey.
Tu vas pouvoir. Enfin, foiré, oui,
ouais.
Ça fait un joli
ouais,
stock.
Enfin bon, faut quand même dire que c'est l'une des séries qui a le plus marqué les années 80. Hein, série policière, bien entendu, avec.
c'était le look qui était original à l'époque, hein, c'est-à-dire vraiment d'habitude les flics travaillent dans des trucs pourris avec des fringues à 3 balles, alors qu'eux ils étaient habillés carrément du Versace ou avec des petits trucs pastel comme ça, ouais. Bien classe, ils roulent en Maserati, en Porsche, et vas-y, ça roule. Et c'était aussi surtout parce que bon bah c'était quand même une grosse production, hein, faut dire, hein, pour l'époque. Il y avait à chaque fois, à chaque épisode, un voire plusieurs personnalités connues invitées. Hein. On a eu James Brown qui a fait 2 apparitions. On a eu Phil Collins, Ted Nugent, Ariel Dombal dans le même épisode.
Merde.
Ted Nugent, et là c'est trop bon parce qu'à un moment il y a Ted Nugent qui fout une mandale à Ariel Dombal. Rien que pour voir cette scène à chaque fois que qui repasse l'épisode, je me fais un plaisir de le revoir avec vraiment oh, beaucoup de plaisir.
Bernard Henry.
Si, si, il y a également Brian Dennehy, Burt Young, Bruce Willis, ouais, ouais, ouais. Mike Foster, enfin bon, laissez tomber. Non, je t'ai plié. Mais c'est pas vraiment une série de plages. Par contre, à l'époque, il y avait quand même une série dans le même style, on va dire, hein, et qui se passait également dans un endroit qui est généralement visité et pour les vacances, pour aller à la plage, c'est Hawaï.
Politeta.
Hawaï, mais non, Hawaï Five-O, bien entendu.
Ah, non, non,
mais
non, non, non.
À la même époque, c'était bien
je
entendu.
Je sais, je sais, je sais.
C'était bien entendu. C'était bien entendu qui
attends, allez, je cherche Higgins, putain.
Ouais, vas-y Higgins.
Allez, mais merde, où c'est qu'il est, où c'est qu'il est? Ah, il est là. Il est là, ah, le moustachu.
Allez, vas-y, vas-y,
ah,
vas-y.
Allez, chope, chope.
Magno
PI, Private Investigator.
Je connaissais pas le titre original, moi.
Bah alors, petit bonhomme.
Ouais, 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 ouais. Magnum qui a duré un peu plus longtemps hein, que Miami Vice à l'époque. Alors là, bon, bah, il y a plus de plages quand même. Il hein. Y a encore. Il y a le Black qui joue avec Manetti, là, avec Larry Manetti, Roger Mosley. Le Black qui a l'hélicoptère, donc on a droit à pratiquement chaque épisode à un survol et
voilà, chez Derek, c'est Mathias, va chercher la voiture. Dans Magnum, c'est Terry, va chercher l'hélico.
Et c'est quand même la série qui a révélé un type qui auparavant était pas du tout connu comme acteur, ne se destinait pas à faire une carrière d'acteur, il se voyait plutôt être playboy, hein, c'était un mannequin, et puis bon, genre de mec que tu vois avec une Marlboro au bec, voilà, faire de la pub pour Malbach et tout, parce que bon, voilà, c'était ça. Tom Selleck, ex-joueur de foot universitaire, et c'est vraiment la série qui l'a révélé et qui l'a imposé comme un acteur crédible, qui marche bien. Qu'on réinvite à l'occasion hein, dans les séries. Hein. Il a fait des
apparitions dans
d'autres séries. Dans Friends, il avait un rôle régulier. Ouais, ouais. Bon, pas mal quand même avec Tom Selleck. Donc, avec également pas mal d'invités. Patrick McNee, Samantha Egar, Ernest Borgnine, Frank Sinatra, Chaim Daly, Ian McShane, José Ferrer, père de le fils de Mel et le frère de Miguel. Oui, Magnum, donc à la même époque. Et quand on dit Hawaï, et ben en fait, je vous ai trouvé d'autres séries qui parlent Hawaï, Hawaï 5-0 bien entendu, hein, c'est-à-dire la
police d'État.
Hawaï police d'État.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Que j'ai Hawaï 259, voilà. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut. 259, qui a duré encore plus longtemps, 268 fois 50 minutes, hein, avec Jack Lord décédé. D'ailleurs, on parle de lui, on parle de la version cinéma hein, de
ouais,
Hawaii Five-O, attention. Hein.
Avec,
alors là, attention, tu vas tomber sur le cul, et là, t'es déjà dégoûté d'avance. Moi, je suis carrément dégoûté, parce qu'on parle quand même d'une grosse pointure.
Alors, attends.
Merde, j'ai plus son nom. Le pote de Matt Damon, là, comment il s'appelle l'autre?
Non, pas Ben Affleck.
Non si, si. Si, si.
Non, mais attends, c'est le spécialiste des remakes foireux, ce mec.
Voilà.
Ah non. Ah non.
Avec Jack Lord, donc décédé depuis quelques années. Cam Fong également, il est décédé. On en avait parlé dans cette émission, je crois, l'an dernier, en fait. Hein, celui qui joue le rôle de l'Asiatique, hein, l'inspecteur adjoint de Jack Lord.
Et avec, bien entendu, il n'y a pas eu tellement de vedettes invitées. Faut dire que c'est une série qui est un peu plus vieille, hein, qui date quand même de la fin des années 60. La première diffusion sur CBS, c'était en 68 aux États-Unis et en 73 chez nous sur la troisième chaîne, produit par Leonard Freeman. On a eu Herbert Lom. Alors ça dit rien du tout aux jeunes, c'est normal, hein, Herbert Lom, Sal Mineo, ça dit encore moins aux jeunes, ça c'est clair. Loretta Swift, Ricardo Montalban et Donald Pleasance, ça ça dit un petit peu
oui,
quelque
oui,
chose
oui,
par
oui,
les
oui,
gens.
Oui. Hein,
et à l'époque il était jeune et pas si enveloppé que ça.
Et pas chauve.
Ah non. Ricardo Montalban qu'on retrouve dans une autre série qui est un petit peu plage, on va dire, hein, qui est le personnage principal de Fantasy Island. C'est quoi ça?
Ben, ah
c'est
oui, tout l'île, l'île mystérieuse.
L'île fantastique. L'île fantastique qui est vachement connue chez nous parce qu'il y avait un Français qui jouait dedans.
Vilches,
le regretté Tatou, hein, qui s'est suicidé il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Hein, Tatouille, pourtant il l'avait trouvé vraiment, il avait eu la reconnaissance internationale avec son rôle dans cette série qui avait quand même duré pas mal de saisons, hein, 131 fois 50 minutes, bah ça fait quelques petites saisons quand même, et c'était une série qui était là pour concurrencer un petit peu une autre série fameuse, hein, qui parle pas vraiment de plage mais qui parle également de gens qui se retirent dans un lieu de villégiature et dans lesquels les scénarios sont propices à des histoires d'amour, à des intrigues.
The Love Boat.
The Love Boat,
The
la croisière s'amuse,
hein,
mais qui est pas vraiment un film de plage parce qu'il y a pas de plage, hein. si il y a des moments ils font bien les escales, mais enfin bon ça reste vraiment très ténu, hein, dans Love Boat il reste toujours accroché à leur image, tu sais, la fameuse image où le mec il cause à la nana. Généralement c'est le soir, des fois il y a le clair de lune et puis ils sont comme ça accoudés au bord du bastingage avec un petit fond derrière et tout tranquille, la mer, et puis ils sont là, oui mais je regrette, j'aurais dû te pardonner la dernière fois, mais ça fait longtemps que j'ai déjà oublié François. Bon vous voyez les gens, et puis bon ça va déboucher sur quelque chose d'absolument magnifique, enfin magnifique pour eux, hein, pour nous pas tellement quoi. Hawaï également avec une série qui est vachement moins connue, et ça c'est tout à fait normal les gars, vous allez me dire, qui s'appelle Follow the Sun. Et pourquoi elle est vachement moins connue? Follow the Sun, c'est le titre original. Parce qu'à mon avis, elle a pas dû être diffusée. Si, elle a été diffusée, mais vous étiez trop jeune, vous étiez pas né. En 1965, sur la deuxième chaîne.
Et je me suis fait engueuler parce que sur le résumé à propos de l'émission Le Virginien, j'avais marqué ORTF deuxième chaîne. Truc de diff, merde.
Alors et ça a été diffusé donc aux États-Unis, c'est sorti en 61. Elle a pas duré longtemps, hein, 30 fois 50 minutes, hein, ça fait à l'époque c'était une saison ou voire une demi-saison. Alors la petite histoire, hein, c'est une histoire. En fait, c'est pas une ça se passe à Hawaï, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est également une des séries qui parle de, qui a comme cadre la ville de l'île de Hawaï, enfin l'atoll de Hawaï, hein, comme Hawaii Five-O et Manopi. C'est pas vraiment une histoire policière parce que là c'est l'histoire de deux reporters, hein, qui sillonnent l'île à la recherche de scoop, tout simplement. Avec Barry Coe, avec Brett Halsey, Gary Lockwood, Gigi Perreault et Jay Lanin. Mais ça date quand même d'il y a vachement longtemps, hein, d'accord. Mais ça se passe à Hawaï, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir encore, à votre avis? Il y a une des séries de plages les plus connues, de toute façon.
Alerte à Malibu!
Baywatch, bien entendu.
Ah, je l'ai pas sous la main!
Baywatch, hein, Baywatch qui, bon, à l'origine, lors de la, lors des pré-tests, c'est-à-dire des pilotes tournés, des trucs présentés au patron des chaînes pour la diffusion de la série, et c'était pas tellement chaud, quoi, parce qu'ils voyaient pas l'intérêt de montrer des nanas comme ça qui se baladent.
Qui se baladent avec les Nimar au vent.
Ils voyaient pas, ça bougeait pas assez, pas d'intrigue, enfin pas trop, hein, c'est vraiment telle limite. Ils se disaient, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire ce truc-là? Et bon, on peut le passer en bouche-trou.
Pratiquement, c'était ça.
Alors que pourtant, il y avait quand même du beau linge dedans, et c'était. Ils vont pas me laisser terminer. Et c'était quand même porté par un acteur qui avait déjà fait ses preuves en tant qu'acteur principal. Mitch Buchanan, David Hasselhoff, K2000,
Michael Knight.
Mais ça plaisait pas trop. Et il a fallu justement que dans les scénarios, ben ils instillent un petit peu plus de, on va dire, de sexe, de moiteur pour que la sauce prenne en fait et que les téléspectateurs commencent à affluer et commencent à demander un horaire un peu plus décent pour cette série. Si ouais, nous aussi on veut regarder, merde, faites chier et tout quoi. Et donc elle a duré pas mal de saisons, 3 ou 4 5 saisons je crois, mais bon bah au bout d'un moment au bout de la quatrième ou de la cinquième, bon bah l'audience a chuté quand même, ouais. Grave, hein, Pamela Anderson qui se barre,
ouais,
elle est remplacée par d'autres bimbos, il y en a pas mal qui sont passés, l'une des plus anciennes c'est quand même Erika Aleniak, hein,
qui sont passés au billard du Niptoc, c'est ça,
ouais ouais, mais enfin bon, il y en a eu toute une tapée comme ça qui sont passés de toute façon, et bon bah justement il y a eu des affections du public parce que je disais bon bah ok ça va, hein, on change les nanas et puis ça revient un peu,
ils ont mis
un petit peu la même chose. En même temps, des épisodes durant la quatrième, la cinquième saison se déroulaient pratiquement sans Mitch Buchanan, c'est-à-dire David Hasselhoff, qui commence à avoir de sérieux problèmes avec la production parce qu'il y avait des histoires de pognon et des trucs comme ça. Donc les scénaristes, les producteurs disaient aux scénaristes, ok, lui là, il joue pas le prochain et tout. Quoi. Il apparaît au début, il apparaît à la fin, puis c'est bon, entre vous démerdez avec le reste. Vraiment, ça a été le gros bordel et c'est allé jusqu'à à l'arrêt de la série, c'est-à-dire la chaîne a dit non, on l'arrête, vous faites chier et tout, il n'y a pas de problème. Et là, c'est David Hasselhoff aidé par la plupart de son équipe, de l'équipe qui tournait et la plupart des acteurs qui étaient sur le truc, qui ont décidé de mettre un petit peu la main à la poche pour renflouer la série et la faire diffuser sur une autre chaîne. Ce qui s'est passé, ça a duré une saison de plus et l'audience n'était pas là de toute façon, hein, et donc la série s'est arrêtée de cette manière. Enfin, ça reste quand même l'un des archétypes, on va dire, hein, de la série de plage, parce que tout pratiquement se passe sur la plage. J'ai eu un spin-off, Mitch Buchanan, enfin justement, c'est David Hasselhoff qui n'était pas d'accord avec l'orientation de la série, à savoir monter tout le temps. Et puis bon, il n'y a pas d'intrigue.
Mais j'ai rien à montrer, moi. Bon, il exagère, il y a un temps.
Et David Hasselhoff s'est dit, ok, je peux avoir ma série un petit peu parallèle, hein, c'est-à-dire je travaille la journée sur la plage et la nuit, je deviens détective. Un petit peu l'esprit, ok, c'était quoi. Voilà donc pour Baywatch, qui est quand même là. Donc la série la plus connue. On a également une autre série qui parle de beach, pas vraiment de beach, là c'est vraiment un petit peu comme Miami Vice.
Beach.
Hein, c'est les dessous de Palm Beach qui a un titre original qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec Palm Beach ou avec la plage. Ça s'appelle Silk Stalking. Ah, titre intéressant. Hein.
Oui,
à un moment justement, t'as le générique qui fait vachement amateur, quoi. Parce que t'as des dessous féminins, ouais. Silk
et le cran d'arrêt à la fin.
Voilà, Silk Stalking, c'est ça, c'est le stalker qui guette les nanas, parce que la plupart des thèmes abordés dans cette émission, dans la plupart des épisodes, des crimes à caractère sexuel, on va dire, hein, généralement. Hein,
ouais, c'est la maîtresse, la pas supportée.
Voilà, avec donc Rob Estes et Mitzi Capture. Ah, j'adore ce nom, je sais pas.
Quel enchaînement, quoi. Mitzi Capture qui a rejoint l'équipe de Baywatch après. Ah, oh là là, ouais, il est trop fort, quoi.
Ouais, trop fort. Après s'être séparé de Rob Estes, parce qu'il faut savoir qu'au début, ils se connaissaient, mais enfin sans plus. Ils s'étaient dit, ok, on va faire un partenaire, mais enfin bon, on va essayer de rester à distance. Ils ont quand même fini par se marier, ce qui fait qu'ils quittent la saison tous les deux à la fin de la cinquième. Et ils quittent la série à la fin de la cinquième saison.
Ouais.
Ils sont remplacés pendant la sixième saison par un nouveau mec, une nouvelle nana. Ouais. Ça tient pas trop, c'est pas trop top et tout. Et pourtant, à mon avis, pour moi, c'est le meilleur duo qu'il y a eu cette série.
Oui, il était pas mal, ouais,
dans la sixième saison.
Ils étaient ex mari et femme, d'ailleurs.
Voilà, et c'est ça, ce mec, il se connaissait déjà. Et dans la septième et dans la huitième et dernière saison, c'est un nouveau couple qui reprend le flambeau, délaissé par Rob Estes et Mitzi Capture. Mais ça s'appelle Les Dessous de Palm Beach en français, donc j'étais obligé, mais vraiment obligé d'en parler, de toute façon. Puis ça parle, c'était diffusé dans le cadre des après-midi du dimanche sur TF1, donc impossible de passer à côté. Sinon, j'ai une série qui est aussi assez intéressante et dont le titre français, en plus, a été conservé, le titre original a été conservé, qui parle un petit peu de beach, c'est China Beach. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu cette série.
China Beach.
Alors, China Beach, on peut dire que c'est un petit peu un croisement entre MASH et le film d'hôpital. En fait, ça se passe, c'est MASH, c'est-à-dire bon, les histoires d'hôpital au Vietnam. MASH, ça se passe en Corée, le film original, mais enfin, pendant la guerre de Corée. Ensuite, on a un petit peu transposé au Vietnam parce que le Vietnam, ça a duré plus longtemps, hein, donc il y a plus de manière à faire des histoires. Là, ça se passe au Vietnam, sur la plage de China Beach, et donc c'est une unité médicale qui est chargée de soigner les blessés du front. L'originalité par rapport à MASH, c'est que pour le producteur William Broyle, il a remarqué que bon, bah, il y a eu quand même 10 000 femmes qui avaient été engagées dans la guerre du Vietnam, la plupart dans en tant qu'aide médicale. Et donc, il a voulu faire une série qui parlait justement de ces femmes pendant la guerre du Vietnam et ce qu'elles y avaient apporté. Et ça s'appelle China Beach. Et donc, les rôles principaux sont tenus par des femmes. China Beach, qui a duré 2 saisons, 43 épisodes de 50 minutes, hein, première diffusion c'était en 88, hein, à la même époque, un petit peu avant, on avait eu une autre série sur le Vietnam, vachement connue, enfin assez connue, pas mal, hein, avec la musique des Stones en générique,
L'Enfer du Devoir,
hein, excellent. Avec toujours des super morceaux groupes anglais des années 70, fin des années 60, enfin vraiment très très bien, musicalement ça rend très bien L'Enfer du Devoir, hein, ça y a pas de problème. La China Beach avec interprète principal Dana Delany, Nan Wood, Michael Boutman, il faut bien des mecs, Nancy Giles, et une certaine blonde qu'on connaît, qui officie encore dans une des séries qui marche le mieux en ce moment aux États-Unis, qui pète la baraque. Alors, une blonde dans une série qui pète la baraque aux États-Unis.
Celle-ci.
Alors voilà, et c'est qui la blonde?
Ah oui. Si, je sais.
Ouais. Ah, je sais pas.
C'est Marg Helgenberger. Ouais, c'est dur à dire. Hein. C'est vachement dur à dire. Hein. En plus, ouais. Quoi. Faut avoir un petit peu le. On retrouve également dans cette série Robert Picardo. Robert Picardo, c'est qui? C'est le toubib dans Star Trek Voyager. Ouais.
Et on retrouve. Spin-off.
Et on retrouve également Megan Gallagher, qui est la femme de Lance Erickson dans Millennium.
Ah.
Voilà.
D'accord.
Tout ça dans China Beach, donc une série qui est intéressante à voir, hein, qui est vraiment pas légère. Enfin bon, il y a des sujets assez graves qui sont abordés. Ça vaut vraiment le coup, hein, de toute façon. Il faut savoir que des scénaristes qui ont bossé, il y a John Wells qui a bossé sur cette série. John Wells en tant que scénariste qui allait créer plus tard avec un certain Michael Crichton une autre série médicale très connue.
Oui,
ER. Voilà, donc China Beach. Hein, ça, vraiment, là, c'est c'est de la bonne qualité, on va dire. Il y a pas de problème, de bonnes histoires, des trucs qui se tiennent. Juste pour vous parler, pour vous dire. Il y a eu des séries un petit peu partout dans le monde. Bon, j'ai carrément omis volontairement toutes les séries brésiliennes. Ok. Par contre, il y a une série espagnole qui est sortie dans les années 80, hein, qui s'appelle Le Bel Été, hein, 19 fois 55 minutes, et qui en fait se passe un petit peu à la plage parce que ça se passe. Ça a été tourné dans la province de Malaga, à Nerjo, un des plus beaux villages du bord de la mer dans le sud de l'Espagne. Ça raconte les aventures et les problèmes pendant les vacances par une bande d'adolescents. Hein, c'était diffusé dans les programmes jeunesse. Deux garçons, Javi et Kike, et deux filles, hein, Béatrice et Bessie. Ah, intéressant, c'est Le Bel Été, donc ça avait été diffusé il y a à peu près une vingtaine d'années. Sinon, t'as vu tout ce que j'ai encore là,
hein? Attends, il est 25.
Moi je pense à une série que t'as pas mentionné encore.
Alors vas-y.
Sous le soleil.
Ouais, mais Sous le soleil justement, bah, c'était dans le cadre des séries que vous pouvez voir, hein, qui passent en ce moment et toute la semaine, hein, pratiquement toutes les vacances, et qui parlent de plage. Hein. Il y en a dont on a évoqué le sujet déjà un petit peu avant. Mais cet après-midi, il y a North Shore, alors de la suite. North Shore avec James Remar. Je sais pas si t'as vu samedi dernier. Mais enfin, cette salope de Shannon Doherty, qu'est-ce qu'elle a foutu
encore,
le bordel et tout. James Remar qui se fait foutre dehors carrément. Carrément comme un malpropre. Mais enfin bon, attends, c'est James Remar, tu vas voir quoi. Hein, faut quand même pas déconner. Elle fait foutre son père en prison. Enfin bon, elle quand elle débarre. Et c'est suivi justement par Sous le soleil à 17h50. Ah. Hein. Y a pas de problème. Sinon, Love Boat, la croisière s'amuse. Ah, rediffusion sur France 3 tous les jours de la semaine à 14h55.
Ah ben, c'est après Derrick.
Ben oui, c'est après Derrick. Ouais. Bah ouais, mais c'est ciblé quand même, hein, je crois. Parce que bon, bah, vu que les programmes de France 2 sont squattés par le vélo, bah, là, c'est France 3 qui s'y colle. Sinon, il y a Flipper également. Je vous ai pas parlé de Flipper. Hein, Flipper le dauphin. Flipper, une série qui a duré pas mal de temps, 88 fois, 25 minutes. En fait, qui s'est arrêtée pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, le dauphin qui s'appelait Flipper, enfin bon, qui s'appelait pas Flipper, eh ben, il est mort. Et ça a tellement foutu les boules au producteur de la série, hein, qui s'appelle Ivan Tors que bah, il a dit, il a décidé que la série s'arrêtait là, qu'il pouvait pas faire continuer la série avec décemment avec un autre dauphin.
Mais je crois qu'ils avaient essayé
un seul dauphin la série.
Ouais, il y avait qu'un seul dauphin.
Mais je crois qu'ils avaient essayé, ils avaient fait des essais avec d'autres dauphins, mais il y avait des problèmes parce que ça était vraiment flagrant, que c'était pas exactement la même couleur, la même taille, etc. Et pas exactement les mêmes réactions qu'ils arrivaient à avoir. Donc ils ont abandonné.
Voilà. Bon, après pour la petite histoire, faut également savoir que par la suite, parce que vous avez certainement déjà vu ou entreaperçu à la télé, la nouvelle série Flipper, hein, enfin bon, Ivan Tors devait être mort à mon avis,
il se retourne dans sa tombe.
Il a dû avoir vachement les boules quand même.
Attends, il y avait Jessica Alba dans la nouvelle série, alors
Et c'est dans le même, un petit peu dans le même registre, un petit peu plus tôt dans le temps, hein, et là c'est une série qui parle également un petit peu de plage, qui se passe tout le temps dans l'eau pratiquement, hein, parce que ça raconte les histoires de Mike Nelson, l'aventurier homme grenouille à la recherche des mystères de l'océan, Sea Hunt, une série qui date quand même de vachement longtemps, qui a été diffusée pour la première fois en 58 aux États-Unis, en 62 sur la première chaîne. Ah putain, c'était pas nombreux à l'époque à voir la télé, je peux te le dire, hein, putain. Et dont le personnage principal est en fait un acteur qu'on a beaucoup vu à la télé, qui est le sosie de Leslie Nielsen, Lloyd Bridges,
le papa de Jeff.
Donc qui était un sportif accompli, qui était un plongeur qui dans sa jeunesse justement, parallèlement à sa carrière d'acteur, il voulait faire plongeur professionnel. Et donc il était à l'origine, si tu veux, il a suivi depuis le début, hein, parce qu'il faut savoir que c'est Jacques Cousteau et un certain Jacques Picard qui ont inventé le manomètre, ce fameux manomètre qui te permet de respirer à travers une bouteille, c'est-à-dire de le détendeur, l'histoire de pression d'air dans la bouteille par rapport à la pression que tu aspires. C'est Cousteau, Picard et des gens qui, ceux-là qui ont inventé ça à la fin des années 40, juste après la guerre, hein, d'accord. Et Lloyd Bridges, de son côté américain, était là vachement intéressé, et donc il a suivi ce truc, l'évolution du matos, et il se destinait à une carrière dans ce même genre. Seulement, bon, bah, acteur, ça a gagné un petit peu plus, et il a participé très tôt à des shows télé. Il a eu son propre show, hein, Lloyd Bridges Show à la télé, et donc il a joué dans cette série, hein, après de nombreux autres, hein, Remoussi Hunt, et dans cette série, hein, qui dure 156 épisodes quand même de 25 minutes, c'est un petit peu le format à l'époque, eh bien on voit apparaître toute la famille, c'est-à-dire ses fistons, hein, il y a Jeff, il y a Beau. Il y a
l'autre, je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, mais ils sont quatre au total. Ben, tu les vois, tout gamins, hein, qui font leur apparition dans certains épisodes de cette série avec Lloyd Bridges, père de Jeff et de Beau. Donc, il a fait des séries Lloyd Bridges. Il a fait une série western en 56. Il a fait également une série qui se passait dans Airport. Il a joué dans Racine également. Il a joué dans à l'Est d'Eden, la mini-série. Hein, il a joué donc dans pas mal de trucs. Et il faut savoir que c'est un acteur qui, à l'époque, dans les années 50, il y avait cette fameuse liste McCarthy. Ah. Il faisait partie de la liste. De la liste noire, hein, des activités anti-américaines. Ils l'ont accusé d'être communiste. Enfin bon, il a failli ne jamais être connu du tout. Voilà, donc Remoussi Hunt. Et j'ai également, eh bien, dans le même registre, c'est un petit peu moins connu, Flipper le dauphin, mais c'est également un petit peu le copinage d'une bestiole de la mer avec de jeunes enfants.
C'est les hommes de l'Atlantide.
Non, Salty. Rappelez-vous, Salty. Allez, c'est quand même dans Salty, ça a été diffusé. Dans les années 70, sur la Fox, hein, et en 76 sur TF1. En fait, c'est l'histoire de Tim, un jeune orphelin, et de Salty, son jeune, sa copine Otari.
Hein.
26 épisodes. 26 épisodes. Hein, c'est le même style. C'est le. C'est exactement ça. C'est le même style donc que Flipper le dauphin, donc
Il avait qu'une otarie.
Pratique, ça sert de décapsuleur. Tu veux une canette?
Flipper le dauphin, donc, qu'on peut voir également tous les jours de la semaine. La série originale, c'est sur Série Club. Tous les jours.
Tu sport, tu vas avoir du mal à prendre la suite.
Ouais, on a la capacité de continuer la chronique.
Tous les jours à 16h50. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai tout passé là. Il me semble un remous, un seul type.
Hunk.
Voilà, c'est pas exhaustif, hein, de toute façon. Il y a également Acapulco Beach et tous ces trucs-là, mais enfin, bon, qui ont plus.
Et Newport Beach aussi.
Comme prétexte, en fait, le fait de se trouver dans des endroits paradisiaques, hein, pour montrer le paysage, c'est tout, quoi. Mais enfin, bon, l'intérêt principal est tout autre, bien
et
entendu.
Et il y a Koh Lanta, et il y a Lost maintenant. Non.
Oui, Lost. Bon.
Et oui, il y a Lost, hein. Je sais pas si t'as vu, là, mais bon, c'est un petit peu tape à l'œil. Je pense que ça va dégonfler très très vite. Bah, pour ma part, ça a déjà dégonflé à partir du deuxième épisode. C'est
enfin,
peu
ça
dommage,
t'a gonflé,
ça
quoi.
Ouais, non, mais enfin, bon, l'intérêt, l'intérêt paraît un petit peu relatif déjà, quoi. Je sais pas où ils veulent en venir, et bon, ça m'a pas l'air.
Ça m'a capable de tenir la route.
Non, non, pas trop. Enfin, tant pis. C'est pas grave.
Thomas.
J'avais quand même, sport, j'avais quand même un petit film là. Ah. Ouais.
Alors c'est quoi, le nanar, le Clint?
Ouais, non, c'est le. On va dire c'est pour se rappeler d'un acteur qui est aujourd'hui disparu et qui a été l'un des piliers du film d'horreur, du film de série B, du film de série B, de Z, une tronche. Hein, ce qu'on appelle une tronche au cinéma, qui est mort il y a maintenant il y a pas mal d'années, je crois, il y a 5, 6, 7, 8 ans. Quand même, Brian James, je sais pas si tu te rappelles de ce mec.
Non.
Brian James, pourtant tu l'as certainement déjà vu.
Oh, certainement.
Certainement, Brian James qui joue dans ce film qui s'appelle Bad Company, un film de Victor Salva.
Ah,
de 94 avec Eric Roberts dans le rôle principal. Eric Roberts en méchant, c'est impeccable, il y a pas de problème. Lance Erickson, et Brian James qui là joue le rôle du shérif. Alors, ça doit être quelque chose quand même. Il y a une nana également qui est là, enfin bon, on en a rien à foutre. Bad Company, un film de 94 donc qui passe sur RTL9 vendredi prochain à 20h45. Voilà, c'est le seul truc intéressant à la télé la semaine prochaine, vraiment. Hein. Et sinon, pour faire carrément le joint, hein, avec ma propre rubrique après de sport, où je vais parler pas mal de vélo, hein, vu que c'est le départ du Tour.
Oui.
Du côté de la télé, les consultants et les ceux que vous allez entendre à longueur d'étape sur vos différentes chaînes, eh bien, ça a été le chamboulement total. C'est plus les mêmes. On en prend des autres, on recommence. Des mêmes, enfin bon, sur France 2, on a décidé de jouer la carte quand même de la sécurité avec du déjà éprouvé, mais pas sur la durée.
Thévenet Saké. Il est parti.
Et ce sera le duo Henri Sagnier avec Jalabert. Hein,
grosse
promotion pour Jalabert quand même. Hein, et place aux jeunes carrément, quoi. Le vieux Thévenet, tu dégages. Allez, Foucan, c'est Jalabert qui prend la place. Donc là, ce sera le duo qui commentera tout ce Tour de France sur France 2. Alors que sur Eurosport, on se disait, putain, avec les chroniqueurs qu'ils ont, Vincent Marteau, Jean-François Bernard, Laurent Fignon, plus Patrick Chassé, je me rappelle pas le nom de l'autre journaliste. Vraiment, il y avait des épisodes, il y avait des étapes nettement plus passionnantes à suivre sur Eurosport que sur France 2, sans problème. Ils avaient carrément les grâces du zapping assez souvent pour
oui,
les nombreuses
le dire,
conneries qu'ils faisaient. Et pour les nombreuses vannes en fait, hein, quand c'était pas tout simplement du lâchage ou du balance, je balance, allez vas-y, ça y va bien. Encore qu'ils se retenaient quand même, ils se retiennent quand même pas mal, quoi. Enfin bon, c'est toujours assez plaisant. Et là, ça a carrément changé, hein, c'est plus du tout les mêmes. Plus du tout les mêmes. Et là, vous allez rigoler parce que là, c'est quand même un monument. Attention, là, je vais me mettre dans la télé ça après quand même pour tester ça parce que ça va valoir le coup sur Eurosport. Hein. Le duo sera Virenque Richard avec Cyril Guimard.
Wow, ça va chier.
Alors,
les bulles.
On peut douter un petit peu de l'efficacité parce que il n'y a pas de journalistes vraiment formés à l'école du direct et ils ne sont pas journalistes, d'ex-cyclistes, Guimard. Dans les années 70, fin des années 60, puis directeur d'équipe. C'est quand même un directeur d'équipe qui a fait gagner, je crois, dans ses équipes. Il y a eu 7 vainqueurs du Tour de France, quoi. Cyril Guimard, donc c'est pas n'importe qui non plus. Bon, à mon avis, il est certainement pas net complet, mais comme pas mal de gens dans le vélo, ceux qui ont su se maintenir.
Du sport, hein, présomption d'innocence.
Ouais, d'accord, bon, surtout, enfin, bon, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Et à côté de lui, il y aura Richard Virenque, qui au départ, on se disait Richard Virenque qu'il avait approché par la 2 et il devait être officiellement
bah, commentateur sur la 2, hein, commentateur ou intervenant, conseiller technique, un truc comme ça. Et ça rigole pas du côté de la rédaction sportive. Il faut savoir que c'est Bill Allure maintenant, hein, le patron de la rédaction sportive
sur
la 2. Alors là, tout le monde est mort de peur, il n'y a pas de problème. Et Bill Allure a déclaré qu'il n'avait pas trouvé une case, un emploi spécifique pour... la nature propre de Richard Virenc. Et donc Virenc, bah, il sera carrément derrière le micro à commenter. Il n'est pas tout à fait bleu-bite, hein. Je veux dire, il a déjà commenté des étapes du Giro, il a déjà fait ses armes un petit peu, ses essais, hein. Il débarque pas comme ça en novice. J'ai jamais commenté, non quand même, attention, ça peut être intéressant. Donc on va suivre ça, Virenc avec Guimard donc comme consultant télé et comme reporter, hein, sur les étapes du Tour de France.
Eh ben, on a bien dépassé puisque c'est un nouveau record, puisqu'il est 13h35.
Ouais,
ben alors vite le résumé, Thomas, pour ceux qui vont nous écouter sur internet et sur podcast. Si vous avez iTunes 4.9, on peut nous écouter maintenant sur le transfert automatique sur baladeur et tout. C'est en cours de mise en place, on a fait les essais, ça fonctionne.
Bon, aujourd'hui c'était très cool. Alors je sais pas si je dormais ou s'il y a rien qui s'est passé. En tout cas, moi j'ai relevé que un triple bug musical tout à l'heure avec une erreur de programmation et d'échange de CD. Voilà.
Tu oublies quand même que j'ai filé à lire, si j'ai bien compté, 1500 plus 700, 2200 pages de lecture dense et intensive.
C'est bien. Et puis il y a eu deux bouquins taxés aussi.
Oui.
Et aussi, oui, parce qu'on va terminer rapidement, j'avais cru frimer avec mon HK Orient Extreme Cinéma, le magazine du cinéma asiatique de 97 avec Kitano en couverture. Eh ben, en fait, je me suis fait niquer la tête par du sport qui est arrivé avec son... gros packaging de plein de revues HK, voilà, donc j'en avais qu'une et ben lui il en est arrivé, il en avait 6 pour les vacances.
Du sport va prendre la suite à 15h, il n'y a qu'à rouler, c'est du reggae. 17h, vie d'ordure, du punk. 18h30, de la pop trotskiste
pour les cadres sup.
Avec Clark Nova. Et oui, les communistes sont de retour sur FMR. À 20h, Last Hetero Experience. C'est encore plus étrange. À 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro. Et à 23h, Breakbeat Experience. Supplément Weekend vous retrouve dans
deux semaines.
Deux semaines, ouais. Puisqu'on va, on va se faire un petit break. Donc, excusez-moi.
À la plage.
Voilà. C'est le 23 juillet que l'on sera de retour.
Au revoir, bonnes vacances.